Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à l'épisode numéro 4 du podcast La grosse maladresse, puis l'autre là. Aujourd'hui, on fait la suite de l'épisode 3 qui était Disney à travers les âges et nous allons parler de la troisième génération de princesses. Mais juste pour être sûr qu'elle n'a pas oublié qui était, on va poser à notre invité la question qui tue. T'es qui toi?
It's me, Marjo!
Donc, t'es la même personne, tout va bien. C'est la meilleure personnalité, celle-là, je vous le dis.
Personnalité de l'année. Donc, avant de commencer, on va quand même faire un petit résumé de l'épisode précédent. On a séparé les films de princesses de Disney en trois générations. Donc, première, deuxième, troisième. La première étant la princesse type, la belle qui chante avec les animaux, qui est très effacée, qui joue pas vraiment un rôle important dans l'histoire, mais qu'en même temps...
Celle qui est bonne à faire le ménage puis à manger,
c'est ça,
pour exactement. Son prince charmant puis pour les personnes dans sa vie. Et on avait spécifiquement parlé de Aurore, de La Belle au bois dormant, autrement dit, de Blanche-Neige et Cendrillon.
C'est ça, donc la première génération. On a aussi comparé avec les nouveaux films, comment ils ont abordé les mêmes sujets, mais peut-être de façon plus différente, de moderniser, de donner plus de profondeur aux personnages. On a fait la même chose avec la deuxième génération qui était à ce moment-là, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Mulan, et j'en oublie un.
La Belle et la Bête, Pocahontas, Mulan, on avait aussi parlé d'Aladdin, puis ouais, de l'autre. Hey, j'ai un blanc.
Un, deux, trois, quatre. Non, il y en avait juste quatre.
Ah, OK, ben c'est pas grave. Puis on a encore une fois parlé des remakes en vrai avec le film Maleficent, entre autres. Non, c'est vrai, le film La Belle et la Bête et le film d'Aladdin. Ouh, Maleficent, c'était génération 1.
Tu ralentis le gros.
Même quand je marche.
On va s'attarder un peu plus sur la troisième génération parce que c'est la génération où ce que on voit un plus grand désir de donner de l'indépendance aux princesses. C'est pas nécessairement des princesses, même si on les rend dans cette catégorie-là. De qu'est-ce qui a été vraiment changé par rapport aux anciennes générations. C'est pas des films avec des remakes parce qu'on a apporté, dans le fond, des nouvelles princesses. Parce que, comme je disais dans l'épisode précédent, on réécrit pas un classique. On peut pas réécrire l'histoire de Cendrillon, on peut pas réécrire l'histoire de Blanche-Neige ou de La Belle et la Bête, mais on peut écrire des nouvelles histoires qui traitent encore des mêmes termes, mais on peut jouer avec les personnages. Donc,
on peut le moderniser, mais on ne peut pas changer le gros de l'histoire non plus.
Ça reste des histoires de princesses, ça reste des histoires de magie, ça reste des histoires pour enfants. Il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses qui auraient pu être faites autrement, comme dans n'importe quoi. Puis dans le fond aussi, l'idée, c'est d'amener comment on regarde ces films-là. On a tous notre propre vision du film, de qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, comment on a perçu ça. Parce que je veux dire, il y a des gens qui vont analyser ces films-là. Et au final, on va faire comme « OK, mais moi, je suis pas d'accord avec ton point de vue. Moi, je l'ai vu de cette façon-là. » Parce que dans le fond, toi, comment tu perçois les messages que le film essaie de passer? Ça s'aborde avec Disney parce que c'est les enfants, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit aborder avec tous les films, même avec les films Twilight, avec les Fifty Shades of Grey. C'est tous des choses qu'il faut apprendre à regarder avec discernement.
Il faut avoir une critique autant de la propre analyse qu'on a fait, mais de quand même être ouvert à l'analyse que les autres en ont fait aussi.
Exact.
D'avoir justement cette conversation-là où qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui peut être interprété différemment tout dépendant de ton background, tout dépendamment de ton éducation, tout dépendamment de d'où tu viens dans le fond.
Exactement. Puis donc, le premier film de cette troisième génération-là soulève justement beaucoup de points là-dessus. C'est La princesse et la grenouille. Donc, on a parlé plus tôt dans l'épisode précédent comment Mulan et Pocahontas étaient les premières princesses d'une autre ethnicité que blanche caucasienne. La princesse et la grenouille, là, on va chercher une princesse d'origine africaine-américaine en Nouvelle-Orléans au début des des années...
50 ou 60, je pense.
Quelque chose comme ça. Là. Je ne les connais pas toutes par cœur non plus. Ce que j'ai lu dans une analyse du film sur Internet, c'est qu'on reprochait à ce film-là d'avoir fait de Tiana, qui est, je vais dire noire, là, mais on a voulu amener une princesse noire, mais on l'a mis dans la classe ouvrière. Okay. On lui a donné comme un statut moindre des autres princesses avant. Je suis plus ou moins d'accord dans le sens où, je veux dire, Pocahontas, elle était peut-être la fille d'un chef, mais c'était pas une princesse de glamour, je veux dire, elle vivait dans la nature puis elle mangeait du blé d'Inde.
Ouais.
C'est une façon un peu simpliste de la décrire, mais je veux dire, c'était pas la princesse Cendrillon qui, malgré le fait qu'elle était ménagère, vivait dans une grande maison, dans une grande propriété. C'est pas ce genre de vie-là.
T'sais, Cendrillon était quand même la fille d'un homme riche à la base. Elle était maltraitée par sa famille, oui, mais elle était quand même la fille d'un homme riche à la base.
Exactement.
Pocahontas, c'était pas une princesse en tant que telle, dans le sens où, premièrement, les clans amérindiens, c'est pas des hiérarchies ou des monarchies. Donc, c'est sûr que c'est pas à ce niveau-là. Mais elle en avait le genre dans le sens où, OK, c'est la fille du chef de clan. Mais c'est quand même pas une princesse en tant que telle.
C'est une monarchie, mais sans royauté, si on veut. Ça reste un chef de clan, puis elle était la successeur de ce chef-là. Elle devait se marier pour que son mari devienne le nouveau chef.
Oui. Évidemment, c'est son mari qui serait devenu le chef.
Exactement. Donc, dans La princesse et la grenouille aussi, ce qu'on va reprocher, c'est que Tiana passe le plus clair de son temps sous la forme d'une grenouille.
Ouais.
Donc, non seulement on prend une princesse, on amène la princesse noire, mais on la laisse pas être qui elle est, on la transforme en grenouille.
En animal.
Donc, on peut comprendre que ça peut être ça. Moi, par exemple, je l'ai vu d'une façon complètement différente. Moi, de la façon que je l'ai vu Tiana, c'est que c'est une personne qui est vraie. Encore une fois, c'est une question de contextualiser le film. On ramène ça en Nouvelle-Orléans. Les personnes afro-américaines étaient vues de façon très négative. C'est encore très partagé. Il y avait encore énormément de racisme, même si, en tant que tel, dans le film, le racisme n'est pas abordé.
C'était une période difficile pour les Exactement. Afro-américains, c'est clair.
Donc. Et Tiana, elle a un rêve et elle veut travailler pour ce rêve-là, pour, à la mémoire de son père, pour elle. Et elle travaille très, très fort. Elle met de côté sa vie amoureuse, elle met de côté sa vie avec ses amis. Je trouve que c'est un peu extrême, mais justement, c'est qu'on veut la prendre d'un extrême pour l'amener à quelque chose de plus modéré, si on veut, à travers le film. Mais je trouve que justement, ça nous montre que c'est pas une princesse. C'est pas la princesse qui a été élevée. Elle travaille fort, elle n'est pas effacée. Elle travaille à façonner son propre destin. Elle compte sur personne d'autre qu'elle-même. Donc, ça, je trouve ça hyper intéressant que ce soit abordé comme ça, que Tiana puisse aller chercher un auditoire différent des autres princesses parce que les petites filles de la même origine avaient peut-être plus de mal à s'identifier. Mais je trouve ça super que, à travers le monde des princesses, en dehors de son background
de classe ouvrière.
Exactement. Ça nous montre justement une fille qui travaille, une fille qui n'attend pas après un gars pour atteindre ses rêves.
Ben, c'est une femme qui prenait ses rêves en main, qui prenait ce qu'elle voulait devenir en main, malgré tout ce qui jouait contre elle aussi.
Exactement. Elle ne s'est pas laissée arrêter. À travers ça, on a son amie Charlotte, qui est la petite fille blonde. Elle, c'est comme la princesse typique. C'est-à-dire, c'est pas une vraie royauté, mais son père, je pense, c'est le roi du matelas dans ce coin-là. Donc, elle est comme la princesse du royaume à son père. Mais c'est l'amie de Tiana. Oui, on voit la différence des deux classes entre Tiana, qui vient d'une classe inférieure, une classe ouvrière, alors qu'elle, bon, elle est élevée dans la facilité, dans le confort et tout ça. Elle est superficielle. Quand le prince arrive, elle fait une fête pour Naveen et tout ça. Mais à aucun moment, j'ai senti qu'elle traitait Tiana comme si c'était une subalterne.
Ouais.
C'est son amie, elle se tourne à travers son côté un peu justement superficiel, elle se retourne vers Tiana pour ses bons conseils et même à la fin du film, donc ça dit que Naveen doit embrasser une princesse pour briser l'enchantement et là ils se disent, ah, c'est elle la princesse, Mais là, au début, elle a trippé sur le prince. Elle veut se marier avec le prince parce qu'elle veut être une vraie princesse. Mais quand elle apprend que Tiana et le prince Naveen sont en amour, bien, tout de suite, elle a fait « Oh, OK, mais regarde, je vais l'embrasser pour briser l'enchantement, mais c'est tout. C'est ton amoureux, ouais. C'est vous qui vous aimez. » Donc, j'ai aimé ce côté-là, justement, de l'amitié qu'on présente. C'est une amitié simpliste. C'est encore une fois, c'est un film pour enfants, c'est Disney. Mais j'ai trouvé ça beau, justement, qu'elle fasse « OK, mais mon rêve de devenir une princesse n'est pas aussi important que le réel bonheur, le réel amour que ces deux-là ont un pour l'autre. Ouais. »
Mais par contre, je vois aussi l'autre côté de la médaille où le point de vue que tu amènes est complètement valide. Mais je peux voir l'autre côté de la médaille où ça peut avoir l'air de la personne blanche qui arrive, qui est comme « Je vais sauver la situation pour que toi, tu sois heureuse. » Tu sais, il y a comme ce côté-là un petit peu aussi peut-être qui joue là-dedans.
Oui, sauf qu'on se rend compte que c'est pas ça.
Ouais, je sais, mais...
Mais oui, non, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est ça. Moi, c'est que j'ai surtout aimé qu'on a mis de l'avant l'amitié.
Oui.
Encore une fois, quand on présente le film à des enfants puis qu'on veut avoir la discussion, je pense que c'est le genre de choses positives qu'on doit mettre de l'avant parce que les enfants vont les écouter, ces films-là. Oui. Et ils vont écouter des films similaires en grandissant. Parce que là, on parle des princesses, mais c'est un...
Disney, c'est tout un univers, là.
Oui, sauf que c'est quand même... L'histoire se répète à travers même les films plus vieux. Je veux dire, toutes les comédies romantiques, ça revient au même. C'est le même schéma qui se répète.
Donc... Mais les histoires de princesses et les histoires d'amour de Disney, c'est un peu ce qui a shapé comme l'idéal des relations amoureuses d'aujourd'hui. Je veux dire, moi, j'ai passé presque 20 ans de ma vie à vouloir que ma vie soit un film de Disney, que ma vie amoureuse soit un film de Disney. J'ai rêvé au prince charmant, j'ai rêvé à tout ça pendant des années, des années, des années. Là. Je veux dire, c'est clair que ça va se ramener dans les films pour adultes parce qu'on nous a montré que c'était ça, comme l'idéal, entre parenthèses.
Mais c'est parce qu'il y a une roue qui tourne, c'est qu'on se dit, on donne au public ce qu'il demande, mais le public demande qu'est-ce qu'on lui a toujours montré, parce qu'il pense que... Donc, tu sais, à un moment donné, c'est de casser la roue pour faire comme, non, OK, ça, c'est pas correct. Mais c'est pas quelque chose qui se fait graduellement, c'est quelque chose qui se fait tranquillement au travers le temps. Puis on peut voir l'évolution à travers Disney. Donc oui, on peut leur reprocher de garder certains thèmes qui sont peut-être plus anciens, un peu plus misogynes, si on veut. Oui. Mais on voit un désir d'aller vers quelque chose qui fait plus de sens, qui est plus réaliste, qui ramène plus les enfants à c'est quoi la normalité. On se rend compte de l'impact que ça a à long terme.
Mais Disney a quand même toujours été un petit peu en retard sur certaines choses par rapport à ça. Pour ce qui est des femmes, puis de comment on traite une femme, tout ça, je trouve que oui, ils deviennent de mieux en mieux avec ça, tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils prennent le coche un petit peu en retard comparé à peut-être d'autres films puis d'autres choses qu'on voit aujourd'hui où les femmes fortes ont commencé à être de plus en plus forte pour de vrai, puis de plus en plus présente. J'ai l'impression que Disney le prend un petit peu en retard par rapport aux autres. Et la même chose pour l'homosexualité. Moi, c'est ça que je connais quand même beaucoup. Mais par exemple, l'homosexualité, jusqu'à il y a environ un an, Disney jamais avait mentionné un personnage gay dans ses films, dans ses tout ça ou tout ça, parce que dès qu'il faisait ou dès qu'il laissait supposer qu'il y avait quelqu'un de gay, il y avait des lettres là, de... Je me rappelle pas c'est quoi l'organisme, là, mais les parents enragés contre tout, là, puis que... Genre, faut pas que
l'association des Karen.
Ouais, c'est ça, l'association des Karen en pouvoir, que genre, dès qu'ils voient quelque chose qui est un tant soit peu gay, genre, ils sautent une coche.
Mais en fait, c'est qu'ils ont fait un hint dans Frozen, mais personne s'en est vraiment rendu compte. C'est des années plus tard que quelqu'un a fait « Hey, check ça! » Puis rendu là, on était déjà rendu ailleurs par rapport à ça. Puis c'était pas flagrant.
C'est ça.
Mais ils ont fait un petit hint dans ce film-là.
Mais jamais ça l'a été dit clair, net et
précis.
Et ils l'ont fait pas dans un film, mais dans une télésérie. Et ils ont eu un gros backslash. Puis ça fait environ il y a un an. Puis c'est là que Disney a fait comme, écoutez, le monde évolue. Disney a décidé d'évoluer. Les LGBT, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est là. On ne va pas faire semblant, on a fini de faire semblant que ça n'existe plus, que ça n'existe pas. Mais tu sais, encore là, je suis comme, dude, on est en 2020, vous êtes en retard, là.
Ouais. Parce que moi, ce que je verrais, puis je ne dis pas que c'est correct, mais ce que je verrais peut-être plus là-dedans, c'est que ça reste un organisme à but lucratif.
Oui.
Son but, c'est de vendre des films. Son but, alors, tu vas aller chercher ce qui va t'apporter le plus d'argent pour pouvoir faire ton prochain film. Donc, si tu amènes trop tout rapidement, le monde va faire non, ils vont tourner le dos, ils vont se tourner ailleurs, qui va leur offrir ce qu'ils veulent. Donc, l'idée, c'est d'amener ça peut-être plus... Fait que oui, c'est vrai qu'ils sont d'accord, mais de l'amener de façon plus... subtil, surtout ouais. que leur audience, ça reste quand même des enfants.
Oui. Mais c'est justement, c'est que si tu le montres à des enfants, ça va normaliser ce qui n'est pas normalisé aujourd'hui. Je veux dire, juste comme on revient à Tiana, qui est princesse afro-américaine dans le film, tout ça. Puis je veux dire, je suis sûr que si on parlait avec une personne de couleur, il pourrait nous expliquer des choses qui sont racistes dans ce film-là, puis tout ça. Tu sais, j'ai conscience qu'en tant qu'homme blanc, j'ai des blind sides par rapport à ce qui est du racisme qu'on peut voir à la télé. Puis c'est pas, je veux pas dire que c'est pas de ma faute parce que tout ça, mais tu sais, j'ai des blind sides, il y a des choses que je verrais pas. Puis c'est en ayant des conversations avec des personnes de couleur que je fais comme oh, là, je comprends pourquoi c'est problématique. Oui. Mais pour être honnête, je suis d'accord aussi que la façon, comme tu disais, la façon qu'il montre Tiana, la façon qu'il l'aborde, moi, j'ai fait comme enfin quelque chose de différent.
Vraiment, vraiment. Puis je pense que là où les gens se sont offusqués, c'est parce qu'ils ont amené justement la classe ouvrière avec la princesse noire. Donc ouais. C'est probablement ça qui a vexé, alors que s'ils l'avaient fait avec Belle et s'ils l'avaient fait avec une autre princesse, ça aurait passé comme si c'était normal, si on veut. C'est correct qu'elle fasse ça, alors que c'est tout aussi correct qu'elle le fasse avec Tiana. C'est juste qu'ils ont cassé un gros moule d'un coup, puis les gens, en fait, mais pourquoi Tiana, elle n'est pas comme ça? Pourquoi Tiana... OK, mais contexte social, économique, historique, elle est en Nouvelle-Orléans, c'est là qu'ils l'ont placée. De la même façon que les gens qui se disent qu'il n'y a pas assez de princesses noires, justement, que Frozen si, puis le Belle et ça. Oui, mais géographiquement parlant, les histoires se passent dans un endroit précis. L'histoire de Belle se passe en France. Ben,
oui.
En France, à cette époque-là, il n'y en avait pas des Noirs, il n'y en avait pas des Africains, des Brésiliens, il n'y avait pas ça. Quand on a fait l'histoire de Moana, bon, on est allé, ça aurait été déplacé de mettre un personnage blanc
ouais.
là, tu sais. Oui. Ça aurait été raciste. Au niveau de Fordun, de la Reine des Neiges, ça se passe quelque part, je pense, en Norvège, qui disait « Le monde là-bas, ils n'ont pas de soleil, ils sont pas bronzés. » C'est carrément ça. Ça aurait été raciste de faire le film « La Panthère noire » avec du monde pas noir. Pas, ouais. C'est ça, le racisme. C'est contextualise, remets ça à sa place. Oui, il faut qu'il y en ait plus. Oui, il faut qu'il y en ait plus. Mais on ne doit pas déformer les personnages déjà existants juste pour faire fitter quelqu'un. On va en créer des nouveaux. Oui, et c'est ça qu'il faut faire.
Mais en même temps, il y a des personnages que... En leur faisant, tu sais, comme là, tout le monde capote parce que Ariel, là, c'est dans le remake live de Ariel, justement, va être afro-américaine. Donc, elle va être noire. Et là, le monde capote. Non, Ariel peut pas être noire. Puis moi, je suis comme, au contraire, ça fait du sens pour moi qu'elle puisse être noire. C'est une sirène. Pourquoi elle pourrait pas être de n'importe quelle couleur? Qui a dit qu'une sirène devait être blanche?
Ben, tu vois, moi, je trouve que le personnage d'Ariel aurait dû être fidèle à son original, au personnage original, mais il aurait dû introduire d'autres personnages qui vont justement nous montrer qu'il n'y a pas juste des sirènes là, il y a des sirènes partout, puis il y a différents pays de sirènes, si on veut, il n'y a pas juste Atlantis, et qu'il y a une diversité. Donc, oui, j'ai été déçue qu'ils disent que Ariel, on va se le dire, j'ai pas sauté en bas de ma chaise, j'ai pas fait comme « Oh my God, le personnage de Disney », mais j'aurais aimé ça qu'ils gardent le personnage comme il était, mais qu'ils se servent aussi de ça pour prétexte pour diversifier. Donc, c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Là, ils ont essayé de réécrire un classique. Ils ont pris une histoire qui existait déjà, puis ils l'ont changée, alors qu'ils auraient pu juste le moderniser. Mais j'écouterais pas moins le film, puis je me laisserais pas arrêter par le fait qu'ils ont fait ce changement-là dans le rôle d'Ariel. Peut-être que le film va être excellent, peut-être qu'il sera pas bon. Ça sera pas parce que l'actrice est pas blanc-pâle.
Moi, tout ce qui m'aurait dérangé, c'est qu'ils mettent pas ses cheveux rouges. Parce qu'elle va avoir les cheveux rouges quand même. Okay, okay. Comme, puis pour moi, c'était beaucoup plus important qu'Ariel ait les cheveux rouges que qu'elle soit blanche ou noire, genre, pour être honnête.
Bon.
C'est vraiment niaiseux, mais moi, c'est faut qu'elle ait les cheveux rouges.
C'est tout. C'est tout.
C'est tout ce qu'elle a besoin. C'est mais il y a des personnages pour moi comme ça que tu... Je veux dire, tu sais comme tu disais, Belle qui vient de France, l'autre qui vient de Norvège, et ça. OK, ça fit avec ce qu'ils sont. Mais en même temps, comme la petite sirène, c'est comme... C'est pas comme si elle venait d'un vrai pays qui existe. C'est ça que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire?
Mais c'est elle était où? Parce que le prince Eric, le pays du prince Eric, c'est tout des Blancs. Ouais. Puis la couleur de la peau, là, ça a évolué avec les années en fonction de notre exposition au soleil. Donc, ça laisse sous-entendre qu'ils sont dans un pays où ils sont peut-être un peu plus au nord.
Oui, mais si tu vis dans l'eau, est-ce que tu es aussi... imbibé de soleil que ça. Il faut penser à ça aussi. Pense à plus... Ah oh non, c'est vrai, plus profond, tu vas dans l'océan, plus que tous les poissons sont blancs. Ah.
Ouais,
Je m'en ai dit, ça fait même du sens avec l'océan.
Non, mais c'est moi, dans le fond, de la façon que je pourrais le voir, c'est que c'est une forme d'évolution. Là, on se lance dans des affaires un peu.
Ouais,
ce que je veux dire, c'est ça resterait fidèle à la position géographique de l'histoire. Alors que là, en mettant Ariel afro-américaine, de peau foncée, ça impliquerait qu'elle vient plus peut-être du sud, de l'Équateur, alors que le prince Eric, dans l'histoire originale, visiblement, sont peut-être plus au nord ou... tu comprends?
Ouais, mais... On verra aussi, on n'a pas vu le film, là, fait qu'on...
Non, c'est ça, tu sais,
Je suis quand même excitée de le voir.
Oui, puis ça va peut-être être un excellent film, puis il faut pas que le monde s'arrête à dire « Oh, ils ont fait une princesse, ils ont fait Ariel Noir, c'est sûr que le film sera pas bon. » Mais ça, de côté, ça n'a rien à voir. Ils ont voulu essayer quelque chose, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'au contraire, on va adorer ça, peut-être qu'on va faire comme « Ah, oh, tu sais, je retrouve pas l'Ariel que j'ai toujours connue, parce qu'il y a beaucoup... pour beaucoup de petites filles, Ariel, c'est leur princesse préférée. Oui. Moi, c'est Belle. Puis s'il avait mis Belle afro-américaine, j'aurais fait « OK, mais ça fonctionne pas avec l'histoire qui est supposée y avoir. » Donc,
ben, je peux comprendre que si c'est ta princesse préférée, voir un gros changement comme celui-là aussi peut faire comme « Eh! »
C'est ça.
Moi, Ariel, pour moi, c'est juste... une des princesses, tu sais.
C'est ça.
Mais j'y pense, puis si effectivement Belle y avait été ailleurs, j'aurais fait comme « touche pas à ma Belle ».
C'est ça, exactement. Ouais, okay. Fait que moi, je pense que c'est plus ça qui a dérangé, mais j'espère en tout cas que les gens vont être assez ouverts d'esprit pour dire « on va juste aller le voir le film, puis au pire, ça va juste être une histoire, puis qu'on va avoir du plaisir à regarder, même si on s'identifie plus autant à la princesse. »
Puis même qu'on va se dire, genre, « Arc, le film était mauvais, mais la seule chose qui était bon, c'est la fille qui joue Ariel. »
C'est ça. Pour revenir à la princesse à la grenouille.
Oui, oui, on a divergé un petit peu.
Oui. Là aussi, c'est comme je disais tantôt, on a cassé beaucoup de gros moules en même temps. Là, on amène le prince, non pas comme étant un homme vaillant, futur roi, dirigeant de pays, tout ça. Le prince Naveen, c'est carrément, il est incompétent et il est frivole. C'est carrément ça. L'introduction qu'on fait du prince, c'est que ses parents, ils ont coupé les vivres parce que tout ce qu'il voulait faire, c'était s'amuser, puis sa guitare, puis flirter avec les filles, puis et tout ça. Donc, on nous amène une princesse qui est hyper indépendante, qui travaille extrêmement fort, puis de l'autre côté, on nous amène un prince...
paresseux.
Qui est comme une coquille vide. Il est très superficiel, il veut pas... Il ne veut pas s'investir, il ne veut pas travailler, il veut juste avoir du plaisir. Donc là, c'est un autre moule qu'on vient casser, mais encore une fois à l'extrême. Et on se dit, en mettant ces deux-là, les forces vont s'équilibrer. Dans la troisième génération de princesses, c'est ça qu'on amène. C'est on amène, toi ne change pas, lui va changer pour toi. Ce qui est tout aussi dommageable et faux de dire. faut l'aborder, selon moi, comme une question de maturité. C'est-à-dire que le prince Naveen, il était immature, il a rencontré quelqu'un et il a compris et il a décidé de maturer. Mais c'est pas des choses dans la vraie vie qui se passent de façon aussi soudaine en quelques jours à peine. C'est un processus et c'est souvent deux personnes qui sont pas faites pour aller ensemble parce qu'il y en a un qui va toujours tirer plus l'autre et ça va devenir... Naveen ne deviendra jamais un homme complètement sérieux. Il va vouloir s'amuser. Tiana, de l'autre côté, doit apprendre à laisser plus aller. Donc, dans un monde idéal, oui, c'est deux opposés qui vont se retrouver puis qui vont trouver la balance entre les deux. Dans la vraie vie, par exemple, c'est un petit peu plus complexe que ça.
C'est une question de beaucoup de compromis puis de... Excusez. C'est une question de beaucoup de compromis puis c'est une question de... Qui va gagner?
c'est ça. C'est un peu un combat des clans, là. Donc, oui, on casse des moules, mais on en amène d'autres qui sont peut-être un peu moins positifs, ouais. Si on veut. T'sais, on montre aux garçons que si t'as trop, t'sais, si t'es trop insipide, si t'es trop, t'iras jamais rien nulle part dans la vie, puis c'est pas bon de mettre juste le plaisir. C'est vrai que c'est pas bon de mettre que le travail, c'est vrai que c'est pas bon de vivre juste dans le plaisir, mais c'est juste de montrer que il va falloir que tu changes si tu veux avoir une princesse. Puis les filles, ben s'il est frivole, puis s'il est pas compétent, ben tu sais, continue de travailler, continue à faire, puis lui, il va changer. Fait que attends.
Lui, t'sais. Va changer pour toi aussi.
Exactement.
Qui fait ramène ça, une autre problématique aussi.
Mais c'est parce que ça nous ramène à la problématique d'avant, dans La Belle et la Bête, où on parlait que c'était une relation violente, et c'est continue d'être qui tu es, continue, lâche pas le morceau, puis à un moment donné, il va changer, puis il va arrêter d'être violent, il va redevenir gentil, non, c'est pas, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, justement, dans les notes positives de ce film-là, c'est justement, c'est que on a voulu vraiment casser les moules, on a voulu montrer quelque chose de complètement différent, on a voulu introduire un autre type de princesse, un autre type de prince, une histoire différente, quelque chose de peut-être, sans être réaliste, à cause de la magie puis du vaudou et tout ça, mais justement, des personnages un peu plus humains, un peu plus qui existent dans la vraie vie, et une princesse qui fait pas juste attendre pour son prince, dans le fond.
Qui attend pas d'être sauvée puis d'être...
Non, c'est ça. C'est ultimement, ils se sauvent l'un l'autre, en fait. C'est ouais. Qu'elle, elle découvre que l'amour aussi, c'est important. Elle découvre que c'est juste le travail, juste... son rêve, c'est un rêve important, mais qu'il y a autre chose. Lui qui découvre que c'est le fun d'avoir du plaisir, tout ça, mais dans la vie aussi, il y a des choses qui valent la peine qu'on s'arrête puis qu'on soit sérieux, d'où son amour. Quand on revient avec l'idée de Charlotte qui voulait les sauver avec un baiser pour qu'ils reviennent, puis ça marche pas. Finalement, ben, ils font, ben, garde, on va être heureux en grenouille, puis on va se marier en grenouille, puis ça va être tout. T'sais, ça va être ça. Tiana réalise quand même son rêve d'avoir son restaurant et lui la supporte dans ce rêve-là, rencontre les parents et dans le fond, les parents de Naveen qui l'avaient carrément coupé, ben là, ils font comme « Ah, Colin, non, c'est pas une princesse, non, c'est pas de la roi, c'est une classe sociale inférieure, mais elle est travaillante puis elle a fait de notre garçon quelqu'un de mature et tout ça. » Donc, c'est juste parce que ça se passe dans un court laps de temps et...
Ouais.
Naveen aurait dû, dans une vie normale, aurait dû faire son chemin, maturer, aller chercher c'est quoi ton rêve à toi, Naveen? C'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et après ça,
évoluer.
C'est ça. Ils ont mis ensemble rapidement alors que Naveen, lui, vient de trouver un purpose in life, mais dans le fond, son but dans la vie, c'est Tiana. Le rêve de Tiana devient son rêve à lui. La vie de Tiana devient sa vie à lui alors que c'est pas ça la réalité, tu sais. Rapunzel. Donc, Rapunzel, je trouve qu'au début de l'histoire, elle se rapproche vraiment plus du deuxième type de princesse, de la deuxième génération, dans le sens où, tu sais, elle est, dans son contexte, elle encore, elle est prisonnière, donc elle connaît rien du monde extérieur, elle est naïve, elle est bonne ménagère parce qu'elle a juste ça à faire, elle se brosse les cheveux, elle passe le balai 4 fois par jour, elle fait des biscuits, elle fait de la poterie, elle fait de la couture, tu sais, elle n'est jamais sortie.
Elle est un peu aussi l'esclave de Mère Gothel, dans le fond, genre.
Exactement. Donc, le prince, dans ce cas-ci, Flynn / Eugène Fitzherbert, C'est son échappatoire. Elle peut pas sortir de ce qu'elle est sans son prince. Ça y prend ça pour sortir. Donc, elle est très dépendante de Flynn quand il vient la voir, parce que pour elle, c'est sa façon d'aller voir les lumières, de voir le monde et tout ça. Donc, je trouve que on est retombé un peu en arrière côté histoire. La personnalité de Rapunzel est un peu pleine.
Mais
elle n'a pas de talent.
Je pense qu'au niveau de Rapunzel, c'est plus au niveau de... comme c'est pas genre Flynn va me libérer, Flynn va devenir ma liberté, mais c'est plus comme je l'utilise pour arriver à ma liberté puis arriver à ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'au début, c'est totalement ça qu'elle fait.
Moi, c'est dans le contexte de « si tu veux y aller, vas-y ». Alors okay, que ouais. Là, il faut qu'elle prouve... En fait, c'est qu'elle sent qu'il faut qu'elle prouve à sa mère, Gothel, qu'elle est capable de se débrouiller. Puis quand sa mère ne lui fait pas confiance, elle dit à Flynn « tu vas m'accompagner, tu vas... » Elle est consciente qu'elle ne peut pas le faire elle-même parce qu'elle ne connaît rien puis elle a besoin d'un guide. Mais c'est juste tout le contexte où le prince est nécessaire. Son prince est okay. Nécessaire à son échappatoire, est nécessaire à ce qu'elle devienne une personne pour sortir de là.
Oui.
Donc là, oui, il y a tout le conflit intérieur après ça de « oh mon Dieu, je suis contente d'être sortie, oh mon Dieu, j'ai trahi ma mère, oh mon Dieu! » Mais c'est...
« Oh mon Dieu, mais... ma mère, c'est pas ma mère!
» Ouais, plus tard. Le prince lui-même, par contre, on est dans la troisième génération à cause de ça, c'est que le prince Flynn doit changer pour mériter Rapunzel, parce que Rapunzel est une vraie princesse, éventuellement parce que ses parents... c'est le roi et la reine, et à travers l'histoire, c'est que là, il commence à être un truand voleur et tout ça, et on se rend compte que non, ben Flynn, en fait, c'est Eugène Fitzherbert, et il faut qu'il redevienne cet homme-là, il faut qu'il redevienne un homme bon, un homme juste et tout ça. À la fin, il doit faire le bon choix, la couronne ou la fille. Donc, c'est le principe de un mauvais garçon, par amour, va
redevenir un gentilhomme.
Va devenir une bonne personne, va devenir une personne respectable.
Puis à la base, Eugène était devenu Flynn parce qu'il ne voulait pas... Il voulait plus être cette personne-là.
Dans le fond, l'histoire, c'est que c'était un personnage de livre qui s'appelait Flynn.
Oui.
Et qui l'avait amené à changer son nom pour ça, parce que pour lui, ça représentait la vérité. Donc, de dire que Rapunzel a été mise sur le chemin de Flynn pour lui permettre de reprendre le droit chemin, c'est une chose, mais c'est parce que ça se rapporte toujours à l'amour, à l'idée que quelqu'un va changer par amour et non pas... Si t'avais pas été là, il aurait pas fait ce cheminement-là lui-même.
C'est toi qui es responsable aussi de le faire changer.
Exactement. Puis quelque chose, dans le fond, qu'on n'a pas parlé que dans La princesse et la grenouille, mais qui revient dans la troisième génération, c'est que c'est beaucoup la princesse qui sauve le prince. Comme on en parlait aussi dans la première partie où on abordait les remakes, où c'est la princesse qui sauve le prince, c'est Blanche-Neige qui sauve le prince et son père le roi, c'est Cendrillon qui sacrifie pour sauver le prince. Ici encore, La princesse et la grenouille, c'est un peu Tiana qui sauve le prince de sa condition de quasiment de sans-abri à cause de ses parents parce qu'elle le ramène dans le droit chemin. Rapunzel, c'est la même chose. Elle le soigne avec ses cheveux magiques, de un. Et de deux, c'est elle qui le sort de cette vie de voleur-là. Donc là, c'est la princesse qui sauve le prince, mais je trouve que pour ramener l'image de la femme, de la fille et de la femme à quelque chose de plus positif, de plus indépendant, ben on est en train de détruire l'image du prince.
Mais en même temps aussi, c'est que ça donne cette idée-là qu'avant, la femme, c'était un objet qui servait à faire le ménage, puis à nourrir, puis tout ça. Puis maintenant, la femme sert à rendre l'homme meilleur.
Ça reste
problématique.
C'est ça. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut regarder avec beaucoup de discernement. Le film de Rapunzel, je le trouve plus vide au niveau des messages qu'on veut passer, au niveau de la morale de l'histoire, même au niveau du personnage de Rapunzel. C'est un personnage qui est plain, qui n'a pas vraiment... Elle n'a pas de valeur dans la vie, comme Belle qui voulait la liberté, qui était instruite et tout ça. Rapunzel est vraiment juste l'histoire de Rapunzel, carrément. Ouais. Elle mature, oui, au fur et à mesure qu'elle avance dans sa...
dans son
pèlerinage. Son but, c'est d'aller voir les lumières et finalement, elle retrouve son identité de princesse, retrouve ses parents, mais en elle-même, le personnage de Rapunzel est, je trouve, un peu fade. Sauf que cette histoire-là a été mise plus de côté par Disney. Il y a eu moins de recherches au niveau de comment on peut amener cette histoire-là dans, plus dans le côté moderne, plus dans l'histoire. Parce que là, juste avant, on avait la princesse et la grenouille où on brisait tous les moules. On dirait qu'avec Rapunzel, on les a toutes ramenées.
Oui. Mais comme on a essayé de les ramener, mais en les modernisant sans trop savoir comment faire. Là.
C'est ça. Ça a pas trop...
C'est comme on a sauté, puis là, whoops, on est en train de tomber en arrière un petit peu. Là.
C'est ça. C'est ça. Fait que pour Rapunzel, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire parce que justement, le film, je trouve qu'il manque un peu de
matière. Moi, à la base, Rapunzel, pour moi, j'ai toujours dit, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film non plus.
Non, c'est ça. Il
est correct.
C'est ça. Un bon film pour faire une petite sieste dessus. Là. Si tu t'endors, tu manques pas grand-chose.
C'est ça.
Le dernier de la liste, on l'a cité plusieurs fois, c'est La Reine des Neiges.
Oh, on n'a avec... pas arrêté de dire qu'on revenait dessus plus tard. Oui.
Là, La Reine des Neiges, on aborde vraiment quelque chose de complètement différent. On reste dans le modèle de la princesse et du prince, mais comme tu as cité dans le premier épisode, là, on va passer, on va briser le cliché. On y va plus, là. Là, on dit les vraies affaires, on va aborder... Oui, c'est ça. Puis de façon claire et non pas subtile. On va le dire dans des mots, on va vraiment l'exprimer. Je dis pas que c'est des films qui sont parfaits. J'ai pas vu La Reine des Neiges 2. J'ai pas vu le Frozen 2. Je sais pas ce qui se passe. Donc, ce que je dis est basé seulement sur le premier. Je suis pas rendu là encore dans ma vie. Bon. Au début de l'histoire, on met en place l'histoire de Anna et Elsa. Donc, ils sont sœurs. Elsa, elle est née avec des pouvoirs. Ça vient comme ça. Au début, il y avait du fun. Il s'est passé quelque chose. Il a fallu qu'on étouffe son pouvoir. Bon, toute cette partie-là, selon moi, fait pas de sens. Mais bon, ça sert à l'histoire de plus tard.
Il explique dans le 2.
OK, mais en tout cas... Non, mais... C'est plus le côté de pourquoi ils voulaient... Ils ont dit la peur, ça va être ton ennemi. Puis tout ce qu'ils font, c'est faire peur.
Ouais.
C'est cette partie-là que je comprends pas. C'est comme, amène-la à développer puis à contrôler et non pas à étouffer. Mais en tout cas, ça, c'est...
Étouffez-la pas. Faites-lui pas avoir peur de son pouvoir. Isolez-la pas. Qu'est-ce qu'ils font? Exactement ça.
Exactement.
Mais tu sais, ça, c'est pas...
Pense pas à la couleur rouge.
Mais tu sais, c'est pas tous les parents qui comprennent. Hein? Je m'en allais fort. Je m'en le dire. Eux autres, ils doivent être anti-vaccins. Oh mon Dieu.
Oh,
je suis sûr que ça va faire de la polémique, ça. Oh.
Oh, ben, ça va aller chercher plus d'audience.
Hey, on fait ça. On fait un épisode juste. On dit juste des affaires genre.
Controversé,
juste pour faire de la polémique.
Donc, là, maintenant qu'on fast-forward au jour du couronnement, parce que jusque-là, c'était plus la mise en scène de...
Ouais, la mise en situation.
Pourquoi on en arrive à là. Et là, on nous garoche l'histoire typique, mais au beurre épais. Anna, elle va être libre pour la première fois de sa vie. Elle a une journée. Elle rêve de l'amour. On s'entend, c'est une petite fille qui a grandi emmurée avec des histoires, des livres probablement, sa propre imagination. C'est tout ce qu'elle avait pour se divertir. Donc là, elle a une journée là, pour trouver l'amour.
Oui, c'est vrai! Puis c'est ça. Elle le trouve!
Oui, mais c'est ça. Mais elle le dit dans sa chanson, puis à la fin de la chanson, elle trouve le prince charmant. Et c'est le prince charmant sur un cheval blanc qui la sauve. Un petit meet cute parce que ça reste humoristique.
Le stéréotype même de la rencontre parfaite entre un prince et une princesse. Là.
Exactement. Donc, Disney ont fait, OK, check ben le moule, on va te le péter comme du monde, mais on va s'en servir une dernière fois. On met tout. On met la totale, donc il y a la rencontre, puis après ça, on s'en va à la cérémonie de couronnement. Et là, ils sont Love is an open door. Ils finissent la sandwich de l'autre. on y va vraiment là, dans vraiment le cliché de chansons de rencontre d'amour, comme La Belle au bois dormant avec sa chanson dans le bois, comme... j'ai pas d'autres exemples vite de même, là, mais ben, comme Cendrillon qui danse au bal. Donc, on y va vraiment, là, on s'est vu, on s'est aimé, c'est la passion, c'est la vie. Et Anna, elle, dans son esprit de jeune fille qui sort de chez elle pour la première fois en genre 10
ans. Elle a trouvé l'homme pour de elle, sa vie.
C'est ça, exactement. Elle, pour elle, c'est ça, la vie. Et je trouve que ça se transpose bien avec, justement, la société où ce qu'on se dit « Ah oui, c'est ça, c'est ça. » Et là, Elsa, eux autres, ils vont voir Elsa pour avoir la bénédiction pour le mariage. Et Elsa qui répond « On n'épouse pas quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer. » C'est comme « Bam! »
Dans ta face!
C'est ça. Non, ça se fait pas. Non. Alors, déjà là, on l'a dit. On le prononce. On fait pas juste le sous-entendre. On fait pas juste le glisser. On le dit. On ne marie pas quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Parce que c'est pas ça l'amour. Anna n'est pas en amour avec Hans. Elle est en amour
avec l'amour.
Elle est en amour avec le rêve de la relation qu'elle pense qu'elle va avoir avec cet homme-là, alors qu'elle ne connaît rien de lui du tout. C'est une chose de connaître l'histoire, de dire « je te raconte mon histoire », puis c'en est une autre d'apprendre à connaître qu'est-ce que cette histoire-là a fait sur cette personne-là. Donc, juste là, en partant, ben on redéfinit tous les films de Disney en disant « ça n'a pas de bon sens ». Mais voyons donc.
Exactement. Puis le fait qu'en plus, le gars en question se ramasse à être le méchant de l'histoire, puis que son amour pour Anna, c'était comme de la manipulation. C'était comme... C'est ce qu'il
voulait. C'est pas vrai.
Exactement. Pour lui, c'était un jeu, c'était une manipulation de « j'utilise ta naïveté pour arriver là où je veux arriver ».
C'est ça, exactement. Et dans ce film-là, on redéfinit l'amour, mais pas juste comment tomber en amour, mais l'amour au complet. Pendant tout le long du film, on dit à Anna que ce qui va la sauver, c'est un geste d'amour. Fait que là, tout de suite, elle, dans son cœur romanesque, et comme dans tous les films de Disney, on s'en va vers le « true love kiss ». Pour elle, ce qui va la sauver, c'est un baiser d'amour avec Hans, avec son prince charmant, parce que pour elle, c'est ça, l'amour. Mm-hmm. Et là, nous autres, dans notre préconçu de Disney,
on pense que c'est ben ça qui va la sauver aussi.
En fait, c'est que moi, je me dis, non, c'est pas un baiser avec Hans qui va la sauver.
C'est le baiser, c'est un baiser avec Christophe.
Alors, à la fin, quand Christophe s'en vient, pas sur son cheval blanc, mais sur son reine... drette là, sur son règne, et que Anna se trouve entre Elsa qui se fait attaquer par l'autre à coup d'épée, et Hans qui... Christophe qui revient parce qu'il veut la sauver, parce qu'il l'aime. D'elle-même, il n'y a pas d'hésitation, c'est sa sœur. Son amour va vers sa sœur automatiquement, et c'est ce geste d'amour-là qui la sauve. Donc, elle se sauve elle-même. Mm-hmm. C'est son amour à elle, c'était pas l'amour de quelqu'un d'autre que ça prenait, c'est son amour à elle que ça prenait pour briser le sort, dans le fond.
L'amour qu'elle-même avait pour sa propre sœur, dans le fond.
Exactement, malgré les années qui les ont séparées, malgré cet amour-là était là, c'est un amour qui était pur et qui était franc et qui était honnête et qui était réel. Donc, on redéfinit carrément c'est quoi la relation homme-femme, mais c'est aussi l'amour en tant que tel, c'est pas... T'as pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre pour te sauver dans la vie. Tout ce que t'as besoin, c'est l'amour que t'as toi, que t'as à offrir aux autres, mais l'amour que t'as toi à l'intérieur de toi. C'est pas l'amour de quelqu'un d'autre qui va te sauver.
Mais oui, je suis d'accord avec ça dans le sens où cet amour-là qui vient de toi, l'amour que justement toi t'as donné, l'amour que toi t'as pour les gens, c'est une puissance en soi-même. Ce que tu es prêt à donner. Puis même moi, de mon côté, je veux dire, j'ai longtemps cherché l'amour, puis nanana, puis blablabla, puis je voulais qu'on me donne de l'amour, je voulais qu'on me donne de l'amour, je voulais qu'on me donne de l'amour. Et quand j'ai rencontré Yannick, c'est le contraire qui est arrivé. C'est, je ne voulais pas qu'il me donne de l'amour, je voulais y en donner. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence aussi dans notre relation. C'est peut-être ça qui a fait qu'avec lui, ça a marché. Parce qu'au lieu de vouloir recevoir, j'étais prêt à donner cet amour-là. Ouais. Fait que peut-être que c'est ça aussi que, qu'il voulait amener. Puis aussi, nécessairement, que c'est pas nécessairement juste avec l'amour, mais comme la relation sœur-sœur là-dedans, là, de Elsa puis Anna, c'est, moi, j'ai trouvé ça beau. Puis autant, tu vois que Anna, elle aime sa sœur comme... Écoute, dès le début du film, là, c'est Anna qui aime sa sœur tout le long, là, je veux dire. À aucun moment du film, Anna ne doute de sa sœur. À aucun moment du film, tu sais, comme même quand sa sœur, elle y envoie un gros golem de neige dessus, elle continue à aimer sa sœur puis à croire en sa sœur, tu sais. Et en même temps, Elsa, de son côté, a fait ça par amour pour Anna aussi, parce qu'elle veut pas blesser Anna, elle veut pas détruire Anna, elle veut pas que ce qu'elle est blesse. Tu sais, comme, il y a comme cette espèce de différence entre l'amour-là où tu as peur de blesser, t'as peur de donner, mais comme tu sais, il y a comme le contraste des deux différentes sortes d'amour que tu peux avoir en relation fraternelle, tu sais.
Ouais. Mais c'est parce que si tu transposes cet amour-là sur un amour homme-femme, c'est aussi un amour qui est possible, ben homme-femme, excuse-moi, je veux dire de couple, un amour oui. amoureux. C'est aussi un amour qui peut exister dans le sens où tu comprends qu'à ce moment-là, cette personne-là ne te veut pas du mal, mais qu'elle traverse quelque chose de difficile et que ça se transpose parfois par des gestes ou des mots qui tentent de t'éloigner parce que de son côté, cette personne-là ne veut pas te blesser. Mais c'est parce que c'est basé, dans le cas d'Anna et Elsa, sur une relation de long terme.
Oui.
Mais d'extrêmement long terme et non pas de la relation de « on vient de se rencontrer maintenant ». C'est ça qui fait la beauté de cet amour-là, c'est que si on avait repris cette histoire-là, mais mettons avec Christophe, qu'elle sauve Christophe, et ça aurait, tu comprends?
Ça aurait pas eu le même impact.
Non, c'est ça. Si on avait mis Hans à la place de Elsa, que c'est lui qui a les pouvoirs et que c'est lui qui repousse et que c'est lui qui... Ça aurait pas eu le même impact parce que là, on parle vraiment d'un amour qui est fraternel, qui est là depuis des années, qui a une confiance, qui a une compréhension. Même si Anna ne se souvient pas du pourquoi, elle comprend que sa sœur vit quelque chose et qu'elle le partage pas, puis elle essaie juste de l'épauler, tu sais. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup aimé de ce film-là, on a parlé de consentement au début. Blanche-Neige, qui est couchée dans son cercueil de verre, inconscient. La Belle au bois dormant, qui est couchée dans son lit et qui doit recevoir un baiser du prince. Oui, on va dire que c'est juste un baiser, mais pour un enfant, pour une jeune fille, pour un jeune garçon, ça fait partie du romantisme. Ça fait partie, mais la personne, même Ariel, qui renonce à sa voix pour être avec le prince, elle renonce à l'idée de pouvoir être... donner son consentement de façon claire.
Juste s'exprimer.
Exactement. c'est vraiment tout ça. Dans le film de Frozen, à la fin, quand Anna donne le nouveau traîneau à Christophe, il la prend dans ses bras puis il dit « Je pourrais juste t'embrasser. » Puis là, il fait comme « Oh, attends un peu. Est-ce qu'on peut? » T'sais, là, il y a un petit moment gêne maladroit un peu, mais est-ce qu'on peut? Est-ce que je peux? Est-ce que... Et Anna donne son consentement en disant « Oui, on peut. » Et là, ils s'embrassent. Donc, il y a quelque chose de... Tu vois que, premièrement, c'est une relation qui est en train de se construire. Ils sont pas en train de se marier la semaine prochaine. Mais ils ont bâti, ils ont traversé quelque chose ensemble et ils se bâtissent. Et là, oh, oh, oh! Est-ce que là, on peut s'embrasser? Et il y a quelque chose de consensuel dans ce baiser-là. C'est que Anna aussi le veut. Elle est pas... Elle n'a pas besoin de Hans pour être... j'arrête pas de dire Hans. Elle n'a pas besoin de Christophe pour être sauvée. Elle n'a pas besoin...
C'est obligatoire qu'elle se laisse embrasser.
Non.
Optionnel.
Non. Si elle avait dit non, Christophe aurait...
Back
OK, off. C'est beau. Tu sais, c'est ça. Tu vois qu'il y a un respect de Christophe envers Anna puis qu'il respecte son choix. C'est oui, c'est laissant porter, le fait tourbillonner dans les airs, mais il n'y a pas eu de geste répréhensible de ça.
Ouais.
Encore une fois, tu sais, quand on parle de consentement, c'est d'avoir du jugement par rapport à ça. Si on s'en remet à Blanche-Neige et la Belle au bois dormant qui dorment de façon un sommeil de la mort, là.
Oui, oui, oui.
Transpose ça dans une relation de 10 ans. Ton chum ou ta blonde ou ton partenaire t'embrasse sur la bouche pendant que tu dors. Il y a une relation de confiance là-dedans. Il y a une relation...
Déjà établie.
Exactement. Donc, c'est pas... Il y en a pour qui ça va être non. Mais il y en a... Moi, ça me fait réveiller parce que je me fais caresser, parce que je me fais donner des petits becs. Oui, c'est quelque chose que j'aime, mais c'est quelque chose que mon partenaire sait que j'aime.
C'est quelque chose qui est déjà établi de « ça me dérange pas si tu me réveilles comme ça le matin », au contraire, j'aime ça, ou « j'ai pas de problème ». Tu sais, comme, je suis sûr que si à un moment donné, tu te réveilles puis ton chum est en train de t'embrasser, puis tu fais « ah, j'aime pas ça quand tu m'embrasses quand je dors », OK, tu t'as dit non, puis là, s'il continue à le faire, oui, même si c'est ton chum, c'est un problème. C'est quand même au niveau de, tu sais, comme, qu'est-ce que vous êtes confortable tous les deux. Si toi, t'aimes ça, go for it, babe, t'as le droit, là, t'sais.
C'est tout ça. Mais si on transpose ça avec des jeunes enfants qui sont pas encore capables de faire la différence entre ça et une relation de 8 ans, parce que t'en as 6, tu sais, c'est pour ça qu'il faut être prudent avec... Oui, c'est juste un baiser pour nous comme un regard d'adulte, mais pour un enfant, c'est un enfant peut refuser de te donner un bec, puis t'as pas à lui dire, ben là, maman, elle a de la peine, papa a de la peine. C'est tout ça, c'est tout ça l'idée du consentement. Ouais. C'est que ça, pour nous, c'est peut-être juste un baiser parce qu'on a fait pire ou mieux.
Ouais.
Pour un enfant, ça relève d'un geste d'intimité énorme.
C'est ce qu'ils connaissent d'une relation. Parce qu'ils ne connaissent pas encore le reste, tu sais.
Non, parce qu'ils donnent des becs à maman, papa, ils vont donner des becs à mamie, à ma tante, à leurs petits amis à l'école, mais c'est ça une relation pour eux, là. Il n'y a pas plus intime que ça dans cette relation-là. Donc, c'est pour ça que, comme je dis, on réécrit pas des classiques. Le baiser de la Belle au bois dormant est un peu nécessaire. Là où on l'avait changé, c'est qu'on l'avait amené que le vrai amour venait pas du baiser de Philippe, mais de maléfique.
Ouais.
On a essayé de changer ça.
Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, si on vivait dans un monde où qu'une fille peut se faire ensorceler puis qu'elle a besoin d'un baiser, d'un prince pour se faire réveiller, peut-être qu'on aurait une autre idée du consentement. Mais on s'entend-tu que dans notre réalité, ça n'existe pas?
Non, fait c'est ça.
Comme, t'embrasseras pas une fille qui dort que tu... Un, que tu connais pas. Deux, avec qui n'est pas ta blonde à la base. Puis que tu sais pas si tu as vu que tu l'embrasses ou pas, whatever, là, je veux dire. Comme tu disais, il y a une différence entre t'es en relation avec quelqu'un depuis des années, puis t'es dans une soirée, le soir, la fille est saoule. Tu sais?
Ouais.
Il y a une grosse différence.
C'est pour ça que ben, les films de Walt Disney, les films de bonhomme et tout ça, c'est les premiers films qu'on va écouter en tant qu'enfant, autant garçon-fille, et c'est ce qui set les boundaries pour les relations futures. Puis là, après ça, quand on arrive à la vie adulte, ben là, on rentre dans la pornographie. Fait que là, on a une idée complètement erronée de ce qu'une relation amoureuse devrait être, et ensuite, on a une idée complètement erronée de ce qu'une relation intime sexuelle devrait être. Donc, on bâtit là-dessus des relations qui sont extrêmement déséquilibrées. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important, dès le plus jeune âge, de d'amener les enfants à se questionner, à développer leur esprit critique. C'est correct d'en écouter des films de Walt Disney. C'est correct de fantasmer, de rêver à ces choses-là. Mais c'est important de comprendre que c'est pas la vraie vie et d'aller voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, puis à quoi tu dois réellement t'attendre? Oui, la romance, ça existe. Oui, il va y avoir un prince charmant, si on veut, à quelque part. Mais le prince charmant que tu vas trouver, c'est pas le prince charmant de ces films-là, parce que c'est pas des personnes réelles. Une personne, c'est trop complexe pour se limiter à ça. Oui, le gars que tu vas rencontrer, il va peut-être changer, mais peut-être qu'il changera pas. Mais il ne faut pas
que tu t'attends.
C'est ça. Puis c'est tout le monde change, tout le monde évolue, tout le monde. Je veux dire, Yannick, le père de ma fille, quand je l'ai rencontré versus aujourd'hui, c'est pas la même personne. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Il se rend compte qu'il y a du cheminement à faire. Il veut le faire. Parfait. Tant mieux, ça lui appartient. Mais moi, je n'ai pas à attendre qu'il change, qu'il comprenne par lui-même les choses. Donc, ça va pour toutes les relations humaines. Je veux dire, même toi, en tant que personne, en tant que compagnon pour Yannick, mais en tant qu'ami avec des amis que tu as de longue date. Oui, non, c'est ça. On se partage.
C'est deux Yannick bien différents, là.
Oui, très, très, très. Donc, c'est juste de dire que c'est le genre de conversation que je veux avoir avec ma fille. Bon, là, c'est encore un bébé. Elle comprend même pas qu'est-ce qu'elle écoute, là. Je veux dire, ouais. Elle n'est pas capable de te faire un épisode de Passe-partout sans aller jouer ailleurs. Mais je veux dire, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir... Puis même si j'avais un garçon, là, développer l'esprit critique, de comprendre... Regarde, ce film-là, ce qu'il veut te montrer, c'est soit une bonne personne, soit fidèle à tes valeurs. Puis si tu fais ça, ben la bonne personne pour toi va arriver. Ça ne veut pas dire que c'est Belle, ta princesse. Ça ne veut pas dire que c'est Cendrillon, ta princesse. C'est aucune de ces réponses.
Ça
ne
veut pas dire que ton prince, c'est la bête, ou que c'est Éric, ou que c'est Florian. T'sais, c'est...
Ou Henri.
Ou Henri, oui. C'est ça. Puis je trouve ça bien parce que c'est justement d'avoir cette ouverture-là en tant que parent, premièrement, d'avoir cette conversation-là avec son enfant. Tu sais, moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfant. Fait que ça, c'est juste une théorie que j'ai. Tu sais. D'arriver à être capable d'avoir cette conversation-là avec son enfant, de regarder ce film-là, oui, c'est beau, oui, c'est romantique, puis oui, c'est beau dans ce contexte-là, mais dans la vraie vie, le contexte est différent. Fait que ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire la même chose. Et c'est, je comprends que les parents d'aujourd'hui ont comme plus de désir puis plus de facilité à avoir cette conversation-là avec leur enfant aussi.
Exactement. Puis, c'est... Encore, je reviens toujours à l'esprit critique, mais c'est juste demander aux enfants, demander pourquoi tu l'aimes, ce film-là, qu'est-ce que tu aimes dans ce film-là, qu'est-ce que tu as appris de ce film-là. Et c'est là qu'on va voir... comment l'enfant l'a perçu. Parce que, regarde, on a écouté les mêmes films, on les a pas perçus de la même façon parce qu'on n'est pas la même personne. Donc, de demander à nos enfants qu'est-ce que tu as retenu de ce film-là? Qu'est-ce que tu as vu? Ils vont être capables, les enfants sont intelligents, ils vont être capables de comprendre, ils vont le voir à travers leurs yeux d'enfant. Mais avec ça, on amène nos enfants, justement, à être capables de regarder un film. Après ça, quand on arrive à l'âge adulte puis qu'on regarde des films comme Twilight, on est capable de comprendre qu'une relation où ce que le gars, il débranche le moteur du camion de sa blonde parce qu'il veut pas qu'elle aille voir son ami Lou, c'est pas une
relation pas normale.
Non, mais que si tu le remets dans le contexte où ce que lui, c'est un vampire immortel, puis que pour lui, c'est une petite humaine fragile, puis qu'il a peur du comportement imprévisible de son ami Lou, tu fais comme « OK ». Ça s'explique, mais c'est pas une relation égalitaire, ce n'est pas une relation saine.
Ce n'est pas quelque chose auquel on doit aspirer.
T'sais. Non. Donc, oui, on peut en fantasmer d'avoir un chum vampire qui nous aime beyond everything. Là. On peut en rêver quand on se couche le soir, de faire comme « Oh, j'aimerais ça », mais c'est aussi de comprendre que
c'est un fantasme.
La relation que Bella aurait eue avec Jacob, on est carrément plus dans le même terme, mais la relation que Bella aurait eue avec Jacob était beaucoup plus saine et équilibrée et équitable que la relation qu'elle a avec Edouard. Donc, c'est de regarder ça.
Oui, de voir aussi c'est quoi la différence, puis d'amener ça dès le jeune âge avec les films de Disney, ça permet d'ouvrir la porte justement quand il arrive à l'âge d'adolescent, pour ouvrir la porte avec justement des films comme Twilight, parce que les films pour adolescents, ça, c'est une autre problématique, c'est une autre histoire, c'est d'autres choses qu'on montre à nos adolescents.
Mais c'est le même schéma.
Oui, c'est le même schéma, mais plus... ils vont pouvoir en grasp un petit peu plus, étant donné qu'ils ont quand même plus de... Tu sais, ils sont plus à l'âge où ils comprennent pas trop, ils sont à l'âge où ils comprennent puis qu'ils assimilent tout right away, genre.
Ils sont capables de l'analyser, mais ils ne l'analysent pas toujours de la bonne façon.
Exactement. Mais d'avoir eu ces conversations-là quand ils sont jeunes, ça doit faciliter justement d'avoir cette conversation-là quand ils sont adolescents.
Exactement. C'est pour ça que je trouve ça super important. Puis là, on parle des films de Disney, mais je veux dire, il y a d'autres films. C'est juste parce que Les Princesses, c'est un classique. c'est ça qui nous rejoint le plus. Donc, vraiment d'aller chercher ça et de ne pas avoir peur d'en discuter, de pas... Puis même nous, en tant qu'adultes, on peut faire comme, OK, je vais réécouter le film, mais je vais essayer de comprendre, tu sais, qu'est-ce qui marche pas dans ces films-là? Qu'est-ce que je devrais voir? D'aller lire les analyses que les gens ont faites, on sera peut-être pas d'accord, mais ça l'amène à autre chose.
Un peu comme on disait dans l'épisode numéro 1, où on va s'enlever ce côté-là blind qu'on a sur certaines choses, puis essayer de voir avec les yeux de peut-être une autre réalité aussi.
C'est ça. Donc là, je pense que ça fait une heure qu'on parle
encore. Oui, ça fait exactement encore une heure. Écoute, super belle discussion. Je suis vraiment content qu'on ait fait deux épisodes là-dessus. Vraiment intéressant. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça intéressant. J'espère que toi aussi, tu as aimé ça.
C'est plate. J'aime pas ça parler de Wall-E.
ça paraît pas.
Non, hein? Non.
Non, ça paraît vraiment pas.
J'en parlerai pour un autre épisode. On en fait un troisième.
On va attendre un peu. On va essayer de trouver un thème différent. Là, de... En tout cas, je sais qu'à un moment donné, il faut que je parle de Moana. Là, mais...
Oui, ben parfait.
Mais sinon, on va y aller avec un autre conseil de la semaine. Moi, mon conseil de la semaine, ça va être encore quelque chose de tout à fait banal. Je vais vous recommander les chandelles aromatisées à l'odeur de Bath & Body Works. Ils ont de toutes banane, mangue, café Paris. Ils ont des qui sentent le gâteau, qui sentent le concombre, qui sentent. Écoute, nomme une odeur, je suis presque sûr qu'ils l'ont. Je veux dire, c'est vraiment intense. Et ici, on ne jure que par ça. On a toujours une de leurs chandelles ouvertes parce qu'on a des voisins qui sont un peu portés sur la consommation intense de marijuana, ce qui fait que ça sent beaucoup chez nous. Donc, on ne jure que par ces chandelles-là. C'est vraiment ultime. Là. Encore une fois, vidéo pas sponsorisée. C'est vraiment juste moi qui vous parle de quelque chose qui vous le recommande.
Bien, moi, je vais en profiter pour plugger mon ami. J'ai une amie qui vient de partir sa boutique en ligne. Ça s'appelle La Maisonnette. Donc, eux offrent, là, présentement, c'est sûr qu'ils ont, c'est nouveau, donc ils ont quelques produits, mais tranquillement, pas vite, l'inventaire augmente, mais ça va des confitures, à des épices, à des tabliers, à des jouets pour enfants. Donc, et c'est vraiment des produits locaux, c'est bio, c'est super beau, c'est de la qualité. Donc, La Maisonnette, moi, je vous invite à aller aimer ça sur Facebook. Je répète, La Maisonnette. Et vous allez vraiment découvrir une belle petite compagnie locale à la maison. Puis, en plus, ça nous met des belles photos de ses enfants qui servent de mannequins pour ses produits.
Hey, tu me donneras l'adresse Internet. Je vais la mettre dans les descriptions de mes vidéos si, puis de mes versions audio sur les podcasts pour que les gens puissent aller visiter ça s'ils veulent.
Good.
Et sinon, eh bien, c'est ce qui termine notre épisode de Les amis. Oui, il y a trois amis parce que j'ai mis des E et des S que vous n'avez pas entendus. Et on se revient la semaine prochaine pour un autre épisode où notre invité nous parlera de comment commencer une collection de mousse de nombril.
Oh! Je pensais qu'on allait parler de dysfonction érectile, mais c'est tellement plus intéressant, ça!
Je te jure, à vous, hein?
Hey, Colin, je vais être là.
Super!